Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir, chers auditeurs.
Bonsoir, chères auditrices.
Et bienvenue dans Cours d'honneur, la meilleure émission de Radio Sorbonne Université.
Tenue par la joyeuse bande de la première radio étudiante de la plus belle fac de France.
Oui, c'est officiel.
Votre duo préféré est de retour.
Pour vous jouer un mauvais tour. Ce soir, c'est toi, ma chère Lodine.
Accompagnée de toi, mon cher Abel, qui allons présenter cette émission.
Donc pas de panique, n'éteignez pas votre radio. Ce soir, on vous promet une émission plus qu'à la hauteur.
Avec du rire.
Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire.
J'espère pas.
Non.
Oui. Mais aussi des débats poignants.
Mais oui, bien sûr, votre
moi
parti.
Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que
le
j'ai
RPR,
fait, moi
l'UDF, le PS et le PC.
Et de la poésie, bien sûr.
Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Ensemble, nous répondrons à la question.
Être étudiant à la Sorbonne, c'est quoi?
Dis-moi, Lodine, qui nous accompagne pour cette émission?
Très bonne question, Abel. Autour du plateau, nous avons... Marine, venue en touriste, comme toujours?
Et non, car ce soir, je reçois Olivier Forcade.
La chance. Par contre, nous avons Louane, qui, je crois, est venue en touriste.
Exactement, je me suis inspirée des plus grands, donc Marine, et je n'ai rien fait. Voilà.
Nous avons aussi Maëlys, qui a sûrement d'ailleurs plein de DST à réviser pour demain.
C'est même sûr, mais aujourd'hui, je vais vous contacter plein d'activités, surtout gratuites, parce qu'on aime bien.
Et Victoire, la mascotte de l'émission.
Salut Abel, salut Lodine. Aujourd'hui, dans la chronique des brouilles, je vous parle des centres de santé.
Super, la santé, c'est important. Et puis Thomas, le vieil oncle grincheux de la Sorbonne aussi, qui vous bassinera avec Xavier Dolan, passé minuit. Salut Thomas.
Salut Abel, bonsoir à tous. Aujourd'hui, moi, je vous emmène dans la chapelle, à l'ombre de laquelle on réfléchit tous les jours, la chapelle de la Sorbonne, avec un tombeau mystérieux.
Très mystérieux tout ça. Mais nous avons aussi des nouveaux.
Effectivement, ma chère Lolo, apparemment, nous n'étions pas assez bien pour Thomas.
Tu penses qu'il essaye de nous remplacer?
Mais non, on est irremplaçable, voyons. Et d'ailleurs, bienvenue à Lilou, tout droit venu du CELSA. Bonsoir Lilou.
Bonsoir, merci beaucoup. Et ce soir, je vais vous parler de Michel de Montaigne, parce qu'on aime la culture et parce qu'il est en face de la Sorbonne et qu'on le voit tous les jours.
Tu as raison.
Ce soir, Malo n'est pas là, mais il nous a concocté une petite carte postale sur la reprographie.
On pense fort à lui, mais il y a aussi Mélie. Encore une nouvelle venue de l'atelier radio. Bonsoir Mélie.
Bonsoir, enchantée.
Enchantée.
Ce soir, on va débattre. On va parler des campagnes de prévention auprès des jeunes. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas?
Restez bien dans l'émission pour savoir. Bref, une sacrée équipe pour une sacrée émission.
Un mercredi sur deux et en direct un vendredi par mois.
Saison 3, épisode 3.
Cours d'honneur.
Nous revoilà.
Et pour bien démarrer ce soir...
Voici l'édito, la carte blanche de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Pour préparer les vacances et surtout bien oublier les partiels, quoi de mieux alors que de flâner dans les rues parisiennes?
Aujourd'hui, Maëlys nous propose 5 choses à faire à Paris en ce mois de décembre. Et surtout, technique de rat, c'est gratuit.
Et oui, effectivement, aujourd'hui, je vous ai dépoché plein de petites activités plus ou moins intéressantes et pour tous les goûts. Je sais que c'est pas la meilleure période pour être dehors, à part si vous êtes vraiment masochiste, alors je vais vous proposer des activités seulement à l'intérieur, c'est-à-dire que vous pouvez oublier le marché de Noël, il fait trop froid en ce moment. Si vous aimez le street art, l'art en général et les animaux également, c'est à la galerie Bruguerigaille dans le 3e arrondissement qu'il faut se rendre. Monsieur Chat, le personnage inventé par Thomas Vioul, un peintre d'art urbain franco-suisse, fête ses 25 ans. Vous pouvez y trouver des créations en superposition des plans de villes et de pays qui retracent le parcours de ce chat qui a d'ailleurs plus voyagé que moi, ça me dépite. Bref, vous avez jusqu'au 13 janvier 2024, alors profitez-en. Ensuite, pour nous faire oublier ce mauvais temps et le rhume que tout le monde se donne comme le Covid, je vous propose une petite excursion à la piscine avec des photographies des plus belles piscines de Paris. Et ça, c'est jusqu'au 7 janvier 2024 et ça se trouve au Magalerie Paris Moniteur. Direction l'Armurerie, le musée des Invalides propose le 9 et 10 décembre de découvrir gratuitement ce qu'on aime, les collections du musée. Et c'est pas tout, car l'école d'artillerie de Draguignan et sa fanfare sont là pour que vous vous amusez. Puis, retour à l'eau, histoire de vous remouiller un petit peu, l'exposition de Yann Arthus Bertrand est présente avec l'association Good Planet au Bercy Village jusqu'au 6 janvier 2024. C'est juste sublime, il met en avant des clichés qui montrent la beauté et les mystères de l'océan, une immersion vraiment magnifique que j'ai adorée sur nos magnifiques planètes, bien évidemment. Pour rester dans le thème de l'eau, mais éviter de vous mouiller un peu trop, il va faire froid, des animaux et de la gratuité surtout, l'aquarium tropical dans le 12e arrondissement de Paris l'Est, je vous conseille d'y aller parce qu'en plus, c'est gratuit. Et voilà, c'est tout concernant les activités à faire pour préparer ce mois de décembre. N'oubliez pas non plus de vous couvrir, ça serait dommage de tomber malade et de ne pas pouvoir venir en cours, car même à 42 fièvres, être étudiant à la Sorbonne, c'est y aller quand même, quitte à vomir partout.
Alors, nous avons un professeur ici qui, je pense, n'est pas sûr de vouloir voir des étudiants vomir pendant son cours. En tout cas, je sais pas qui a dit que Paris était une ville chère, mais moi j'ai entendu que des choses gratuites qui ont l'air super. Je sais pas, vous, qu'est-ce qui vous a plu là dans ce qu'on a entendu ? L'aquarium de Tropical de la Porte Dorée est super, qui est déjà allé ?
Moi jamais, mais peut-être okay. Un jour, hein, pourquoi pas ?
Pourquoi pas, ouais, une petite carte postale là-bas, Lilou.
Moi j'aime beaucoup l'exposition de Yann Arthus Bertrand. Et c'est hyper intéressant parce que justement, avec Personae, on fait une petite... ce mois-ci, on parle des...
Émission de RSU,
on parle des artistes engagés pour le climat, donc c'est l'occasion d'aller voir ça.
Eh bah, écoutez le podcast Personae et allez à l'exposition, mais aussi
bah, le débat dans la ville à Déo.
Et à débat.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Alors que le mois sans tabac s'achève demain, c'est le mois sans alcool qui nous attend pour janvier.
En bons étudiants qui se respectent, les soirées, ça nous connaît, n'est-ce pas Thomas ?
Ouais,
et plaide coupable, j'adore. Ça nous arrive d'y boire et d'y fumer.
Oh non, pas toi Abel. Enfin bon, tant que ça reste exceptionnel... Les campagnes de prévention sont nombreuses pour nous encourager à ne pas transformer l'exception en addiction.
Est-ce qu'en tant qu'étudiant, vous vous sentez concerné par ces campagnes ? Ont-elles un impact sur votre hygiène de vie ? C'est ce que Mélie est allée vous demander.
Déjà, j'en ai pas trop non plus entendu parler, quoi. Ça me touche pas trop. Enfin, je pense que si je réduis ou que j'arrête, ce sera pas forcément parce que telle campagne, mais je pense que de toute façon, il faut que ça vienne de soi, quoi.
À vrai dire, j'y ai essayé plusieurs fois. Je trouve que c'est une bonne initiative.
Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout.
Mais en tout cas, c'est pas par moi que ça a été prouvé. Parce que ça fonctionnerait plus si on interdisait le tabac, tout simplement, enfin la cigarette, quoi. Il y a toujours cette idée que l'interdit, ça incite les jeunes. Mais non, je pense qu'il faut continuer les campagnes, moi. Il n'y en aura jamais assez.
Mais alors, je connais pas mal d'amis qui l'ont fait. Je sais que pour l'instant, c'est pas trop dans les objectifs d'arrêter de fumer. Ou en tout cas, arrêter complètement, quoi. Donc personnellement, moi, ça m'a pas particulièrement impacté. Je pense que oui, les slogans, par exemple, 5 fruits et légumes par jour, tout ce qui touche aux produits laitiers, etc., c'est quelque chose qui, on l'a bien inculqué, enfin, on ressort beaucoup, quoi. Après, je sais pas si, en pratique, ça a vraiment des impacts sur nos pratiques de consommation. On est un peu dans la fleur de l'âge, du coup, ces questions-là, elles sont encore un peu lointaines.
Je considère que j'ai un peu la flemme et que... ouais, j'ai la flemme, hein.
Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous.
Que ma consommation, elle est honnête, sans excès, donc... ouais, je sais pas si ça marche vraiment, quoi. Je savais même pas qu'il y avait un mois sans tabac ce mois-ci.
Le jardinier s'en fout de tout.
Avant de penser à notre santé physique, on essaie de maintenir à flot notre santé mentale dans les études et dans la réussite et dans tout ce qu'on nous demande de faire. Dans ceux qui ont un travail à côté et qui essayent de maintenir la tête hors de l'eau. Parce que fumer des clopes à côté, c'est... pas très grave, quoi. Des personnes qui ont 30, 40, 50, 60 seraient plus sensibles, d'où les médias qui sont utilisés pour relayer ce genre de prévention, quoi.
Moi, j'ai pas du tout arrêté de fumer pendant le mois de novembre. On n'explique pas assez l'impact que ça peut avoir d'arrêter de fumer pendant un mois. Les campagnes, c'est souvent juste une affiche avec un gros titre qui dit on ne fume pas pendant le mois de novembre, mais un peu un mois fourre-tout où on balance toutes les campagnes de prévention, etc. Le mois de janvier sans alcool pour compenser avec ce que les gens boivent au Nouvel An, etc. Je pense que c'est un peu ça peut être un peu ridicule, quoi.
Moi, en janvier, je vais boire. Moi, j'ai l'anniversaire de ma meilleure copine, en janvier, je vais boire.
Allez, cul sec.
Mélie.
Et vous, vous êtes plutôt dans la fleur de l'âge, la flemme, ou faites attention à votre santé?
Qui fume ici, qui fume pas, qui se bourre la gueule?
Dénoncez-vous.
Bah alors moi je me dénonce, je fume, je bois, je voilà. Moi je suis vraiment team flemme. En vrai j'ai bien aimé ce que disait la fille sur déjà on survit à nos études et si fumer sa tête, bah voilà. Puis bah je sais pas, en fait moi je fais un peu partie de la team. Peut-être qu'il y aura plus de planète dans 50 ans, donc que je fume ou pas. Bon,
fume la vie avant qu'elle te fume.
Exactement.
Les autres, il y en a qui fument, il y en a qui fument pas, il y en a qui, d'anciens fumeurs qui s'en sont repentis. Non.
Moi, j'avoue que personnellement, je ne fume pas et je ne bois pas.
D'accord.
Du tout.
Wow, bébé parfait.
Les soirées chez Thomas sont un peu compliquées.
Oula, oula là. M'en parle pas.
Perso, je fume pas du tout. Par contre, je bois très
comme
peu.
Comme un trou, je crois que
t'as vu. Le problème, c'est que je bois très peu. Je bois un verre, mais je suis tête.
D'accord.
Direct.
Peut-être que ça t'inspire pour tes devoirs.
Je pense pas. Ou, peut-être la philo, c'est bah connu, ouais. Hein, pourtant.
Mais sur le, c'est vrai qu'on a la Sorbonne, une fac comme d'exception. Vous comprenez ceux qui se disent que ça les aide dans leurs études et que ils arriveraient pas à arrêter de fumer parce que ils pensent que leur santé mentale et donc leur niveau scolaire diminuerait.
Bah, je pense que c'est plus une question de stress. C'est pas forcément santé mentale. Tu peux survivre, oui. Hein, tu vois, ouais. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de t'infliger pardon, un stress supplémentaire alors que t'as déjà des partiels, des machins?
Ouais, moi je connais une fille qui m'a dit si j'arrête de fumer, je meurs.
Ouais, bon voilà.
Et si tu continues, tu meurs, donc ouais.
Ouais, mais c'est dans plus longtemps, tu vois. Donc,
Il a eu sa petite heure de gloire la semaine dernière pour l'émission Sound.
Maintenant, il est de retour à la régie, mais il voulait quand même avoir son mot à dire. Thomas, c'est ton moment.
Inconnu ou mal connu que excite l'imagination.
Ils brûlent parce qu'il y a des tas de journalistes qui veulent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Les savoirs inutiles, donc complètement indispensables de Thomas.
Chaque semaine, tu nous racontes une anecdote méconnue de l'histoire de la Sorbonne.
Pour ce nouvel épisode, tu nous emmènes dans la chapelle de la Sorbonne où se trouve un mystérieux tombeau.
Sachez, chers confrères et chers consoeurs, qu'une question agite les plus éminents historiens depuis des siècles. Mais où se trouve la dépouille du cardinal Richelieu? Au fond de la cour d'honneur s'élève le dernier vestige de la Sorbonne du XVIIe siècle, une chapelle construite à la demande de Richelieu et à ses frais, dans un style antique très en vogue à l'époque. À l'intérieur, une surprise. Le Saint des Saints. Ce à quoi Richelieu tenait le plus à la Sorbonne, son propre mausolée. Oui, la chapelle Sainte-Ursule abrite le tombeau de Richelieu où reposent ses restes, un tombeau de marbre surmonté d'un catafalque. Ainsi fut inhumé Richelieu au cœur de la Sorbonne. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est bien son corps qui repose dans le tombeau ? Tout commence à la Révolution française. Les révolutionnaires envahissent l'institution et profanent le tombeau de Richelieu. C'est Alexandre Lenoir, administrateur du musée des monuments français, qui le raconte. Le 1er août 1793, la Convention décrète la destruction des tombeaux des rois de la basilique Saint-Denis. Alexandre Lenoir est le témoin de la destruction des tombes royales, des ossements jetés dans une fosse ou volés. Il s'oppose d'ailleurs à la fureur des profanateurs et des pilleurs, tandis qu'un nouveau terme fait son apparition dans le grand public. On parle du mot de vandalisme.
Vandale. On est des vandales, quoi. On est des salisseurs.
C'est interdit, ça n'a pas de sens, mais c'est ce qui me plaît, quoi.
En voulant sauver de la destruction le mausolée de Richelieu, il parvient à sauver du saccage toutefois les statues et les gisants des rois de France. Il parvient à sauver in extremis quelques reliques royales, macabres. Et quand on profane le tombeau de Richelieu, il est là, il est présent quand on exhume Richelieu, Richelieu qui est momifié.
Aujourd'hui, la momie. Ah, vous nous voyez venir. Qui dit momie dit énigme, pyramide, pharaon. Bah non, pas cette fois-ci. Enfin, pas seulement.
Il raconte que la momie de Richelieu avait les pommettes saillantes, les lèvres minces, le poil roux et les cheveux blanchis par l'âge. Un des révolutionnaires lui a coupé la tête du cadavre de Richelieu, et l'a exhibé sa tête comme un trophée. Ensuite, on ne sait pas ce qui est arrivé à sa tête pendant près d'un siècle. Il faudra attendre 1895 pour que la tête et sa célèbre barbiche retournent dans son cénotaphe, sculpté dans le marbre et achevé l'année précédente. Il n'est pas enterré tout seul d'ailleurs, Richelieu. Il y a 27 membres de sa famille qui reposent sous la coupole, mais aussi, et c'est moins connu, 12 enseignants reposent dans la crypte sous la chapelle. Des membres de la résistance morts, fusillés ou dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a également 5 lycéens du lycée Buffon qui ont activement résisté et finirent par être attrapés, jugés et fusillés par la Luftwaffe. Alors certains en 1968 se sont demandé comment on pouvait penser librement à l'ombre d'une chapelle. Eh bien sachez que cette chapelle abrite parmi l'un des moments les plus importants, parmi les personnalités les plus éminentes de notre chère université.
Que de mystères renferme quand même cette université, on dirait Poudlard. Moi je voulais quand même relancer sur quelque chose, Thomas, que la plupart des gens ne savent pas ici, mais tu as une petite anecdote sur la chapelle qui t'est arrivée il y a une semaine à peine.
Mais oui, ça c'est bien la démarche du journaliste. C'est-à-dire que quand une porte s'ouvre, on met le pied dedans pour qu'elle ne se referme pas et qu'on puisse se faufiler à l'intérieur. Et bien c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai vu un groupe qui est rentré dans la chapelle la semaine dernière et je les ai suivis. Je me suis glissé parmi eux et j'ai pu pour la première fois rentrer dans la chapelle Sainte-Ursule, rencontrer le maître des clés et voir... et qu'il me montre plutôt le tombeau de Richelieu, qui est magnifique d'ailleurs, tout en marbre blanc, avec des figures allégoriques qui entourent le cardinal. Et je vous le promets, on fera un petit reportage la prochaine fois au sein de la chapelle, et on invitera même le maître des clés dans Cours d'honneur.
Bah franchement, on a hâte, enfin je sais pas vous, mais en plus à chaque fois je vois des gens rentrer, je sais que c'est pas visitable pour les touristes, mais il y a quand même des gens qui rentrent, des groupes qui viennent visiter. Moi, ça me donne, je sais pas vous, si vous avez envie d'y aller ou.
Moi, je veux y aller parce que j'en ai marre de me perdre dans la Sorbonne, donc autant se perdre pour quelque chose.
Mais il paraît que des portes dérobées y mènent.
Alors, il y a des portes qui mènent à rien. Ça, je m'en suis rendu compte.
Lilou, tu voulais dire quelque chose?
Non, je voulais dire, je me demandais où c'était en fait. Parce que moi, je viens pas
chapelle
souvent dans la Sorbonne. Oui.
Alors, quand tu traverses la cour d'honneur, c'est le grand bâtiment à droite.
Ok.
Tu peux pas le manquer, c'est le truc avec la coupole emblématique, c'est sur toutes les silhouettes,
d'accord.
C'est tous les logos de la Sorbonne et tout, c'est le... Fin...
On ira faire une petite sortie après.
Anecdote.
Oui, anecdote, oui, voilà. Jingle anecdote.
On rajoutera en post-production.
Quand je suis arrivée la première fois à la Sorbonne, je pensais que les cours étaient dans la chapelle, parce que j'avais pas compris non plus que c'était une chapelle. Donc voilà, je pensais que
j'allais
faire
un cours dans la chapelle.
TCM dans la chapelle.
Ça serait pas mal. Mais je pense que monsieur Olivier Forcade ici aimerait donner des CM à côté de la tombe de Richelieu, j'imagine.
Oui, ça inspirerait sans doute les cours qui seraient faits.
Voilà, c'est quand même. En tout cas, c'était très intéressant. Merci Thomas. Retrouvez les TD d'histoire de l'art et d'histoire de la Sorbonne toutes les deux semaines pour Thomas. Mais maintenant, moi j'ai pensé à quelque chose. Il fait froid, il fait nuit tôt. Ce serait pas le moment idéal pour écouter du bon rap venu des UK. Les connaisseurs de Top Boy l'auront reconnu, c'est Maroon Sofa de Ediwane sur Cours d'honneur.
Motor one way trip to Martin. So far lost everything, felt like I had no one. Sat stressed out of Martin. So far done my first show, had to spot the promoter. Head straight back to Martin. So far I pray when the fame and the charting's over. I ain't got enough up on Martin. So far am I living in a brought down motor one way trip to Martin. So far lost everything, felt like I had no one. Sat stressed out of Martin. So far done my first show, had to spot the promoter. Head straight back to Martin. So far pray when the fame and the charting's over. I ain't got enough up on Martin. So far when the night is the 6th October. If I had a one wish for my birthday, it would be some more 10-10 YOLA. I'm in a band though, there's no California. I'm trying to count these 20s up sober, the ding dong pay. No insurance, one more sold till the reload's over. I'm trying to make a crack fiend turn chauffeur. My attention's innocent, this band all small but I'm dreaming big. It was attempted and first time I was faced with a CPS. I bought my first hood phone loose and the gang asked me why I'm OT jugging. Yo broski, why you been OT jugging? Cause I'd rather sit down for the food than bootings.
Yo, every day these birds just get more stupid. Bro got eight for the mash, no sweets, and now we gotta wait till it's free. Boot an OT boy, but when I come to the hood, I cause a nuisance. Had a hammer on me, it come like I'm trying to do home improvements. It's a double life and I'm working two shifts Monday. I'm trying to be a college boy Friday on a Northwest train from Houston. Yo, I fucked up my attendance. I put two in the blue with the magic I made to assemble like the Avengers. Pro always said I'm useless. But for stay in Scotland, I made me £2. M11 and I brought down motor, one way trip to Martin. So far, lost everything. Felt like I had no one. Sat stressed out on Martin. So far, done my first show. Had to spot the promoter. Head straight back to Martin. So far, I pray when the fame and the charting's over. I ain't got enough for Martin. So far, am I living in a brought down motor? One way trip to Martin. So far, lost everything. Felt like I had no one. Sat stressed out on Martin. So far, done my first show. Had to spot the promoter. Head straight back to Martin. So far, pray when the fame and the charting's over. I ain't got enough for Martin. So far, my work I try finessing the pack. You said Fiona's car got smashed. I was down to my last half each. Had me with a hand thing in the back of the cab. I was taking a smoke on the N-way, I felt like a sport exhaust pipe. Yo, I need this food right now, and I don't wanna hear more lies. Told them that I know it's a loss, it's kosher. This round that I lost, it could change you. Got to meet me on Martin sofa. Then I back to the revolver. Yo, what haven't I done while sitting on Martin sofa? I just wanna stick round like a golfer. I switch up that pattern and track to a motor. Everyday YOLO, major ammonia. I don't wanna catch me a 30. I'm tryna stack me a 30 and buy Daytona. I need my track days over. I see myself in the Daily Mail. I'm a first track, so if I get grabbed from, I can't get built. I smell like that bando, I can't get girls. And before no better, I would've quit rap cause I can't take L's. Gang. Had to sign up twice a week, I got too much shows and I can't make sales. Had just a sign left, I felt like say shows. I haven't popped off bells. And Martin Sofa, tell him. M11 and I brought down motor, one way trip to Martin Sofa. Lost everything, felt like I had no one. Sat stressed out on Martin Sofa. Done my first show, had to spot the promoter. Head straight back to Martin Sofa. I pray when the fame and the charting's over. I ain't gonna end up on Martin Sofa. M11 and I brought down motor, one way trip to Martin Sofa. Lost everything, felt like I had no one. Sat stressed out on Martin Sofa. Done my first show, had to spot the promoter. Head straight back to Martin Sofa. I pray when the fame and the charting's over. I ain't gonna end up on Martin Sofa.
C'était Eddie One sur Cours d'honneur, toujours de la très bonne musique au programme. Mais ma chère Lodine, j'espère que tu t'es mise sur ton 31.
Ah, pourquoi ?
Parce que ce soir, on a un invité.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Sur Cours d'honneur, on parle de la vie des étudiants de la Sorbonne
et de leurs enseignants.
Comme tous les soirs, on accueille un nouvel invité.
Pour ce nouvel épisode, c'est un professeur d'histoire que nous recevons.
Et oui, ce soir nous recevons Olivier Forcade. Olivier Forcade qui vient d'ailleurs très gentiment de nous dédicacer la France et l'OTAN depuis 1989. Rappelons que vous êtes entre autres professeur d'histoire contemporaine des relations internationales à la Sorbonne depuis 2008. Et je dis bien entre autres, car je ne pourrais pas être exhaustive et décliner tous vos titres qui sont nombreux et prestigieux. Vos objets d'études portent principalement sur l'histoire des conflits au XXe et XXIe siècle, sur la question du déplacement des populations, ou encore sur l'évolution du système international. Enfin, autre apport et pas des moindres, vous avez contribué à introduire les études sur le renseignement en France dans une approche politique et internationale. Olivier Forcade, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de vous recevoir dans Cours d'honneur. Pour rentrer immédiatement dans le vif du sujet, il est difficile de parler des relations internationales sans évoquer les deux conflits, Russie-Ukraine et Israël-Hamas, qui occupent, comme on le sait, en grande partie la scène internationale dernièrement. Ma première question est la suivante. Selon vous, dans quelle mesure ces conflits ont-ils rebattu les cartes de la géopolitique et plus généralement, que disent-ils de l'état actuel, tout simplement, des relations internationales ?
C'est une question vaste et importante. Moi, je crois qu'on est dans un moment de basculement. C'est d'abord le retour de la guerre. L'horizon qui est le nôtre, c'était la paix, depuis 1945, enfin pour nos générations. Même si nos parents ou grands-parents ont pu faire des conflits comme l'Algérie. Mais enfin, c'est un horizon nouveau pour nous, celui de la guerre, qui revient à nos portes, à quelques heures. Et ça, c'est un tournant.
Et selon vous, cet horizon de paix, il s'est refermé ?
Moi, je crois que nous sortons d'un cycle de paix qui a marqué l'histoire des 70 dernières années et que probablement nous sommes entrés dans une ère de conflictualité où le chaos règne plus sûrement que l'ordre, l'organisation et la paix.
Et alors justement, vous m'évoquiez l'idée de conflit qui serait une sorte de nouveauté du XXIe siècle. Mais alors au-delà des conflits, on pourrait également évoquer la question du climat, la crise sanitaire ou encore les cyberattaques comme autant de risques pour la situation géopolitique. Selon vous, est-ce que ça traduit le fait qu'on est dans une tension internationale grandissante ? Et plus généralement, quel avenir voyez-vous pour les relations internationales ?
Alors pour répondre à vos nombreuses questions, en fait, je crois d'abord qu'on est dans un tournant qui est marqué par le retour de la guerre en Europe. La guerre russo-ukrainienne, avec l'agression russe, marque un tournant dans une Europe qui a connu pour l'essentiel la paix, en tout cas depuis 1945. Donc ça, c'est un véritable tournant. Le second tournant, c'est évidemment, une fois, je dirais, l'évolution de l'Union européenne mise en question, celui qui est au fond très proche de nous, par notre culture, par nos relations, et puis par le cœur qui est la Méditerranée, dans nos relations avec les pays africains et les pays du Moyen-Orient et de l'Asie la plus proche. Le conflit à Gaza entre Israël et le Hamas est évidemment un événement qui rebat les cartes. Vous voyez, avec 30 années d'essai de construire une résolution vers la paix, et peut-être que cette période est désormais derrière nous. L'échec de la paix entre les accords d'Oslo de 1993, les négociations des années 1990, et puis les tentatives de construire des solutions, eh bien, semble marquer le pas avec le conflit de 2023.
Mais alors, que peut-on imaginer des relations internationales, par exemple, allez, prenons à moyen terme, d'ici 50 ans ?
Alors moi, je suis d'abord, je voudrais vous le dire, très, très optimiste.
Ah.
Même si, vous voyez, le tableau que je viens de tracer est sombre, tragique, par un retour de l'histoire qui semble nous sauter au visage. Je suis très optimiste parce que la génération que vous êtes, de femmes et d'hommes, a des talents, des engagements, des idées que je trouve souvent justes, qui s'exprime dans de nombreuses associations, dans des ONG, dans des modalités de mobilisation et d'engagement qui montrent un grand souci à la fois de sincérité, de pragmatisme et puis d'ouverture aux autres. Donc je crois que, si vous voulez, comme toujours, il faut s'appuyer sur la génération qui vient ou les générations qui viennent pour trouver des solutions que une génération qui a mûri dans un moment historique n'arrive plus à trouver ou à résoudre.
Eh bien, écoutez, on prend cet optimiste. Je voulais également évoquer le cas des États-Unis, longtemps considérés comme les gendarmes du monde. Ils évoluent aujourd'hui sur la scène internationale sous l'égide de ce que certains ont surnommé l'ère post-Trump. Ma question est la suivante. Quel rôle peuvent-ils désormais jouer dans l'équilibre mondial ? Et plus radicalement encore, est-ce que la doctrine Trump, comme certains l'ont dit, à l'international, a-t-elle conduit à une Amérique contre le reste du monde ?
Je crois que nous sommes orphelins du rêve d'Amérique. Ce qui est la marque des 10 dernières années, ou des 20 dernières années, peut-être davantage d'ailleurs, c'est que cette société, cette civilisation, cet État, ce continent, ont probablement oublié de faire rêver toutes les femmes et tous les hommes. Le grand tournant, c'est tout de même les années 2000, après les attentats du 11 septembre 2001, avec une intervention des États-Unis dans un certain nombre de conflits qui vont dérégler la puissance américaine et puis peut-être brouiller le rêve américain. Lorsque vous défendrez les droits de l'homme, les relations entre les cultures, le melting pot, et que l'image renvoyée est celle des drones, d'un conflit qui s'éternise, de civils qui sont victimes de guerre, les repères se brouillent, les valeurs deviennent plus confuses, et l'engagement ou le rêve se dissipe. Et donc, vous voyez, les 20 années qui vont de 2001 à 2021, par exemple, avec l'Irak et l'Afghanistan, ont probablement abîmé l'image de ce pays extraordinaire, de cette société passionnante, attractive, mais sur laquelle nous nous interrogeons désormais. Donc ça, c'est un tournant, je crois.
Mais donc, d'après vous, finalement, le point de bascule sur notre vision à la représentation des États-Unis, c'est plutôt le début des années 2000 et la question terroriste que l'effet Trump, finalement.
Oui, tout à fait, parce que je crois en réalité que Trump est à la fois, si vous voulez, révélateur, symbole, et moment dans l'histoire américaine. Mais en réalité, le rapport des États-Unis au monde dépasse et déborde du moment Trump. C'est une hyperpuissance, d'abord militaire, qui est capable, comme puissance globale, d'intervenir partout dans le monde en même temps. Et c'est un élément très important. Alors la question est de savoir si le leadership américain entraîne des autres pays, d'abord les alliés européens de l'Alliance Atlantique, ou si désormais le leadership devient hégémonie, et c'est-à-dire contrainte ressentie comme telle par les alliés, les partenaires ou les peuples qui suivaient l'histoire américaine comme une histoire exceptionnelle.
D'accord. Écoutez, comme nous l'évoquions déjà au début de l'interview, vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire du renseignement. Or, il semble que le renseignement a longtemps été la dimension oubliée de l'histoire des relations internationales. Déjà, est-ce toujours le cas? Et quelle place, je dis ça parce que je ne suis pas sûre que ce soit immédiatement intuitif, quelle place faudrait-il accorder au champ du renseignement dans l'explication des événements internationaux?
Alors d'abord, vous donnez un scoop. Parce que vous êtes une radio et vous aimez quand même, en bon journaliste, trouver des scoops. Nous avons lancé hier soir au Sénat une revue avec des jeunes historiennes, historiens, politistes, sociologues, civilisationnistes et puis des praticiens. Une revue scientifique internationale en français et en anglais qui paraît aux presses universitaires de France et qui sera online français et anglais à compter du 6 décembre 2023. Elle s'appelle « Études françaises de renseignement et de cyber ». Et c'est au fond le fruit, vous voyez, de 20 années de réflexion pour installer un champ de recherche et un objet nouveau, ou en tout cas une approche nouvelle, dans l'histoire des relations internationales, mais également dans l'histoire militaire, dans l'histoire politique ou l'histoire économique, qui puisse précisément ouvrir des perspectives d'analyse nouvelles. Alors oui, c'est un chaînon manquant et qui, j'espère, désormais va relier des événements, des sens, des explications.
Alors justement, vous m'ôtez les mots de la bouche. Explicitons à nos auditeurs que vous êtes également directeur des presses de Sorbonne Université. Est-ce que, selon vous, cette institution joue un rôle dans la lutte contre la désinformation et si oui, laquelle?
Bon, alors, c'est encore une très bonne question. Oui, c'est un aimant. Je crois fondamentalement au savoir, à la diffusion du savoir, au dialogue par la connaissance de l'autre, de sa culture, de sa langue. Et le livre est évidemment à la fois un outil, un médium tout à fait exceptionnel. Alors ces presses sont tout à fait extraordinaires par leur histoire, par la diversité des livres qui sont publiés et par l'écho ou les rayonnements, si vous voulez, qui est donné. Oui, je crois que le livre est un moyen majeur pour comprendre, expliquer.
Et alors justement sur l'histoire des publications, fait un peu insolite, c'est intéressant, j'ai noté que vous avez notamment publié « La messe de la Sorbonne ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Car je crains que les Sorbonnins n'aient pas connaissance de l'existence de cette œuvre qui relie Metz et Sorbonne.
Oui, tout à fait. Il s'agit ici d'un livre qui a été publié il y a une quinzaine d'années par des musicologues tout à fait remarquables. Il s'agit dans une histoire médiévale de la musique, et notamment de la polyphonie, d'une messe où des voix polyphoniques se mêlent à la fin du Moyen-Âge pour dire la messe.
Mais donc c'est une œuvre ancienne, c'est ça, qui a été redécouverte et que vous republiez?
Absolument. Alors elle a été republiée en 2012.
D'accord.
Pour être précis et de mémoire, et a fait l'objet donc d'une édition annotée avec le manuscrit. Elle dure quelques minutes, et c'est un peu plus, et c'est véritablement des voix qui se mêlent dans leur polyphonie et ressuscitent la chapelle de la Sorbonne, dont nous parlions tout à l'heure avec Richelieu.
Eh ben, écoutez, j'espère que nos auditeurs ont bien retenu le titre de cet ouvrage.
La messe de la Sorbonne.
Messe de la Sorbonne, à se procurer immédiatement. Comme nos auditeurs d'ailleurs... peuvent justement l'entendre depuis le début de l'échange. Vous parlez des relations internationales avec beaucoup d'enthousiasme. Mais alors, j'ai une question presque un peu naïve. D'où vous vient cet intérêt si grand pour les relations internationales?
Ça, c'est une question qui est également complexe et riche. Elle renvoie évidemment à l'intérêt individuel, et puis au métier d'historien, et puis à la chance que l'on a d'avoir des rencontres. J'ai commencé il y a presque 35 ans. Et après un service militaire aux écoles militaires de Saint-Cyr-Couët-Quidan, qui est l'académie militaire française qui forme les officiers de l'armée de terre en recrutement direct, j'ai commencé à travailler sur l'histoire des relations internationales, notamment stratégiques et militaires. Et ensuite, cette approche, cette spécialité m'ont accompagné dans des enseignements à Sciences Po Paris à partir de 1993, puis à nouveau à Saint-Cyr-Couët-Quidon, je suis devenu professeur en 1991, de manière durable cette fois-ci. Donc c'était un enseignement d'histoire des relations internationales, une ouverture sur le monde pour former les officiers d'un côté et pour de l'autre former des étudiants français étrangers qui étaient accueillis à Sciences Po Paris dans un cycle tout à fait passionnant. Donc il fallait évidemment construire des savoirs qui parlent à des étudiantes et des étudiants qui venaient d'autres traditions académiques, d'autres universités, d'autres pays, pour pouvoir construire avec eux un raisonnement critique, à la fois en scientifique, mais aussi en citoyen, voulant s'engager à l'avenir.
D'accord. Écoutez, on retiendra que c'est une histoire d'amour ancienne. C'est déjà bientôt la fin. Et nous terminons toujours dans Cours d'honneur l'interview par la traditionnelle question: que représente la Sorbonne pour vous ?
Je crois que la Sorbonne, c'est une chance exceptionnelle pour les femmes et les hommes qui y passent, viennent s'y former, d'abord par les rencontres intellectuelles, humaines, humanistes qu'ils peuvent y avoir. C'est un lieu de liberté intellectuelle absolue qui permet à chaque pensée, à chaque individu de s'épanouir, de se construire et de se projeter vers l'autre et avec l'autre. C'est un luxe extraordinaire. C'est une institution qu'il faut à la fois chérir, servir, défendre et vivre avec.
Eh bien, écoutez, merci pour cette réponse totalement convaincante. Et plus généralement, merci beaucoup à vous d'être venu dans l'émission Cours d'honneur.
C'est moi qui vous remercie.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Forcade, pour votre présence ce soir et pour ce très bel interview, au cours duquel on a même eu le droit à la révélation d'un scoop. Donc ça...
Premier sur l'info.
Absolument.
Oui, bah si d'ailleurs comme moi cette interview vous a inspiré, n'hésitez pas, on est en replay sur nos plateformes de streaming, vous pouvez vous taper Radio Sorbonne Université, vous nous trouvez sur Spotify, vous pouvez réécouter cette interview, vous aurez des informations inédites et un scoop surtout, parce que même BFM il l'a pas celui-là.
Non, vous êtes
ah oui, la messe de la Sorbonne, je suis pas sûr que BFM en ait parlé.
Alors ça, la messe de la Sorbonne, c'est
non
un,
plus.
C'est un livre magnifique, mais alors... c'est passionnant. Alors, il y a un enregistrement, je n'ai pas pensé à vous dire, mais il y a un enregistrement CD avec le...
Je pense que dans la prochaine émission, on pourra passer un petit extrait.
Ah, mais très sérieusement, totalement. Quand j'ai trouvé, je me suis dit, tiens, c'est extrêmement surprenant. Quelle est cette histoire de messe de la Sorbonne qui date d'il y a quand même plusieurs siècles.
Un autre petit scoop. Enfin, c'est pas un scoop. C'est une petite anecdote. Je cherche le nom de l'émission... que je suis en train d'oublier, qui est cette émission qui passait sur France Culture ou sur France Musique. J'en ai déjà parlé dans une émission il y a 6, 7 ans, 8 ans, qui doit être sur le net. Je vous donnerai la référence. Je crois que c'est sur France Musique. Et j'avais amené le disque qui est passé à l'antenne à cette époque-là. Mais bon, il faut en parler davantage parce que c'est une œuvre tout à fait extraordinaire. Il faut voir Élise Deceroir, qui est la jeune diplômée du CELSA, qui vient de rejoindre notre équipe, qui est très, très sympathique et très compétente, et lui demander un...
C'est noté, et nous récupérons cette musique pour la passer.
Oui.
Ça fait maintenant 38 minutes que nous enregistrons, il est donc 20h38 tout pile chez vous, dans votre douche. Et maintenant, je crois que nous avons du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
La carte postale sonore.
Chaque mois, on vous fait visiter un lieu emblématique de la Sorbonne.
Une visite radiophonique guidée par Cours d'honneur.
Cette semaine, on vous emmène dans un lieu où on abat chaque jour l'équivalent d'une forêt amazonienne et demie, le service reprographie.
Notre guide est au micro de Malo.
Monsieur Marchetti Bruno, technicien de recherche à la reprographie, depuis 41 ans, au service des étudiants et des enseignants. Bonjour à tous, je vous emmène visiter le service reprographie du site Malesherbes. Vous êtes accueillis avec un décor passe-partout, qui peut être sur le cinéma, varié, voilà. Déjà, l'ambiance est là pour vous accueillir et puis vous mettre surtout à l'aise, bien entendu. Bon, le cinéma, bien sûr, chacun peut... découvrir ces scènes des années 60 à nos jours. On fait partager, comme je vous disais, nous sommes dans un climat familial, enseignant et étudiant. Bonjour, bonjour. Vous me les avez envoyés ou
oui,
pas?
Oui, je les avais envoyés lundi.
Pour aujourd'hui?
Pour aujourd'hui.
Vous les avez pas eues dans votre casier?
Ah non,
je
enfin, je le fais toujours, d'habitude.
Ah, il me semble qu'il n'est pas parvenu, votre mail. Ils ont 48 heures de délai, mais bon, dans l'urgence, on est capable de réagir. Ils viennent avec la banane parce qu'ils savent qu'ils vont être super accueillis. Oh, ça tombe bien, ma collègue qui vient faire le complément.
Bonjour.
Ça va, Isha? On va faire un petit peu le tour de tout ça. Là, vous avez un petit relimatique qui fait du dépannage pour de la reliure colle à chaud. Là, vous avez les spirales pour faire des petits cahiers destinés aussi bien pour les étudiants que les enseignants. Ça peut aller jusqu'à 500 pages. Hein. C'est quand même du professionnel. Vous avez ici une plastifieuse A4 A3 voilà, qui permet de protéger des documents destinés à être mis en extérieur. Notamment aussi des affiches de colloques que nous faisons et puis qui sont destinées à être un petit peu affichées dans tout le centre et à l'extérieur. Voilà, là vous avez aussi une petite machine qui sert à faire un brochage livré, manuel. C'est une machine qui nous dépanne bien. La table lumineuse nous permet de pouvoir mettre nos documents alignés point par point. Voilà, quand nous avons une maquette bien chiadée à faire. Bon, les petits appareils, ça c'est quelque chose. Ça, je l'ai connu dans les années 80. C'est une vibreuse à papier, une taqueuse, pour dire le vrai mot, qui est assez bruyante. Il faudrait plus qu'un casque même. Quand le papier est un petit peu mélangé, quand on veut mettre de l'ordre dans sa ramette, on va dire. Voilà. J'ai connu l'offset à réveiller l'encre tous les matins. De l'offset, on est passé au duplicopieur. Maintenant, c'est le haut volume que nous venons de découvrir qui fait le livre intégré, que nous pilotons à distance via les PC. Donc, il a fortement évolué, ça c'est vrai. On peut dire qu'on tire à peu près entre 1,5 million et 2 millions de copies à l'année.
Bon, merci beaucoup, au revoir.
C'est moi qui vous remercie de votre passage. Et je vais vous souhaiter une excellente journée.
Merci beaucoup.
Et comme on dit, à la revoyure.
Eh bien, très intéressant, cette petite carte postale. Moi, je ne savais pas qu'il existait ce service reprographie, parce que perso, c'est Thomas, hein, mon service reprographie. Hein.
Je pense qu'ici, tout le monde fait imprimer ses textes chez Thomas, qui d'ailleurs n'a plus d'encre de couleur à cause de nous.
Ouais, merci beaucoup, ouais, je vous enverrai la facture. Non, mais allez voir le service reprographie à Malesherbes, avec Bruno, qui vous accueille depuis 31 ans. C'est lui-même qui a transmis les plans aux architectes quand la Sorbonne a racheté le campus Malesherbes au campus HEC à l'époque et qui a demandé à ce que cette salle fasse tant de mètres par tant de mètres pour accueillir toutes les machines qu'il nous a décrites dans la carte postale.
Incroyable. C'est le pilier du rap et de la pop US. Tout de suite, on écoute Kid Cudi et son très célèbre song « Willing to Trust ».
Your touch paralyzes me in the morning. I don't want you to go. Sincerely yours forevermore. Teach me what you know when I count on you. Show me something new, honey. Someone and I've been willing to trust someone and I've been willing to trust someone and I've been willing to trust someone. Yeah. If we ain't got trust, we ain't got nothing. Is this really love? What it's becoming? Funny how we turned into something. Say you wasn't even looking for a boyfriend. Don't need no friends, that's
that shit so confusing. Left your ex, thought you never trust a man again. Don't take it out on me, no. Don't do me dirty, let's make this worth it. I've been willing to trust someone in my life. Willing to trust someone.
C'est Willing to Trust de Kid Cudi. Et tout de suite, la toute première chronique en direct du petit chouchou de l'émission.
Ça y est, allez dans la cour des grands.
C'est l'heure de victoire et du moment des brouilles.
Allez mon poulain.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table.
Ça y est, c'est fini. Au revoir le soleil et bonjour la pluie.
Les reniflements dans l'amphi.
Les quintes de toux interminables.
Et le thé au miel.
C'est vraiment pas génial de ne pas se soigner à cause de la hausse des prix chez le médecin.
Alors, sans remettre en question vos remèdes de grand-mère, Victoire vous a préparé son bon plan santé.
Effectivement, Lodine. La saison froide arrive avec ses rhumes et ses otites. Mais SOS Médecin est injoignable et les médecins traitants n'ont de place dans leur cabinet qu'à partir d'avril. À croire que les patients prennent des rendez-vous préventifs en juin, déjà persuadés d'attraper la bronchite de leur vie dans le courant de l'automne. Si par chance, vous avez un rendez-vous et un remède contre la maladie, c'est alors la facture qui vient vous rester au fond de la gorge. Mais Cour d'honneur vous donne ses bons plans santé dans cette nouvelle chronique débrouille. Mise en situation. Vos yeux vous piquent. Votre nez est tellement bouché que vous ne vous souvenez même plus de la dernière fois que vous avez respiré normalement. Votre gorge fait mal et vos oreilles sifflent. Je vous arrête tout de suite. Hors de question de s'auto-diagnostiquer une infection pulmonaire stade 5 sur Doctissimo. Non. Le réflexe à avoir, c'est celui de consulter. Et le plus vite sera le mieux. Ne courez pas non plus aux urgences. La réponse est dans la question, mais la plupart du temps, même pour les hypochondriaques, non, votre nez qui coule n'est pas pour ainsi dire une urgence. La solution, la voici. Consultez dans un centre de santé. Il en existe plus d'une dizaine à Paris, généralistes ou spécialisés. Dont par exemple le centre de République dans le 10e, celui de Marcadet dans le 18e, de l'Épée de Bois dans le 5e ou encore de Tisserand dans le 14e, pour ne citer que ceci. Le principe de ces centres est de donner accès à la santé à tous et en vitesse. Alors il vous faut réserver un créneau sur Doctolib. Il y a de nombreuses disponibilités et surtout, et c'est là que ça nous intéresse, c'est moins cher qu'ailleurs. Pourquoi, me direz-vous? La réponse est simple. Les centres de santé dépendent de la commune. Ici, Paris. Le tarif est le même dans tous les centres de santé, c'est-à-dire celui préconisé par l'assurance maladie, soit 25 euros. Bon, 25 euros, je vous le concède, ça reste 50 cafés au distributeur, plusieurs repas au Crous et quelques fringues en fripe. Mais
tous les centres de santé pratiquent systématiquement le tiers payant. En gros, ça veut dire que la carte vitale prend en charge deux bons tiers de la consultation. Ce qui nous amène à une consultation à 7,50€, sachant que cette somme peut être remboursée par votre mutuelle. Par ailleurs, vous pouvez choisir le médecin que vous consultez. Donc si vous avez flashé sur le dernier externe du cabinet, oui, vous pouvez les revoir. D'ailleurs, en parlant d'externe, cette information s'adresse à nos chers étudiants en médecine. Les stagiaires sont bienvenus dans les centres de santé. Plus il y a de médecins, mieux c'est. Alors n'hésitez plus. En bref, si on récapitule, les centres de santé, c'est un tas de spécialités différentes. Ophtalmologie, gynécologie, dentisterie, médecine généraliste, rhumatologie, mais aussi du love, des stages et des économies. Alors vous et votre bronchite, foncez en centre de santé. Pour 7,50€, ne vous privez pas d'être malade. Je vous le rappelle, parce que là-bas, les Black Friday, c'est toute l'année.
Si je savais que je payais pas cher le médecin grâce à Anne Hidalgo, merci Anne. T'as oublié de citer le centre de santé des Diaconesses dans le 12e. Allez-y, prise sans rendez-vous. Et je crois que Maëlys a un nouveau bon plan santé en direct.
La Sorbonne, psychologue, médecin, gynéco.
C'est vrai, les infirmeries de la Sorbonne, vous pouvez y aller, c'est gratuit.
Allez-y. Dans Doctolib, pardon.
SSU, c'est la même chose.
Sorbonne Université SSU et vous avez...
D'accord, ok.
Ouais, c'est incroyable. Vous savez que c'est très utile, cette petite chronique, parce que moi, je ne vais plus chez le médecin. Hein. Une fois, depuis mon arrivée à Paris, j'ai payé 60€. Ouais. Et en fait, j'étais perdue entre les secteurs.
Hors convention, secteur 5. Ah non, mais le centre de santé de la Sorbonne, notez-le. Parce que je ne le savais pas. Mais c'est super. Alors, je crois, par contre, petite transition sur l'émission qu'on a fait la semaine dernière, les carabins qui nous ont expliqué quand même que malheureusement l'infirmerie de la Sorbonne est ouverte. C'était quoi, Thomas? Une fois toutes les deux semaines ou deux fois par semaine?
Une fois toutes les deux semaines, ouais, seulement entre 15h45 et 17h45.
Donc c'est des horaires
le troisième mardi du mois.
De poste en province, mais ça reste intéressant. Sinon, rien à rajouter, des petites galères chez le médecin, des trucs. Louane, toi qui es venu en touriste, t'as rien à dire sur les médecins? T'as...
Bah, alors moi je vais pas chez le médecin non plus.
Voilà. De toute façon, la planète brûle dans 50 ans d'après Louane.
C'est foutu. Non, je vais pas chez le médecin. L'autre fois, j'avais 42 fièvres. J'ai attendu que ça passe. Et ça passait,
écoute,
quoi.
Il faisait comment il y a 200 ans?
Bah, voilà.
Ça ou la saignée, hein, donc limite, à un moment donné.
Et maintenant, une chronique qui raconte l'histoire des grands personnages de la Sorbonne.
Pour vous, les futurs grands personnages de la Sorbonne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Vous êtes certainement tous déjà passés devant la statue en bronze située juste devant le square Samuel Paty.
Mais si, vous savez, quand on descend la rue de la Sorbonne et qu'on traverse la route, on se retrouve juste en face de Montaigne.
Assis, les jambes croisées, qui nous tend un pied devenu doré à force d'être caressé par tous les étudiants de la Sorbonne.
Vous vous êtes alors sûrement demandé, que peut bien faire Montaigne ici?
Ça tombe bien, car cette semaine, dans Sorbonne en personne, Lilou va vous raconter l'histoire de cette statue.
Et en profiter pour nous rappeler celle de cet illustre personnage.
Merci Lodine, merci Abel. En 2 ans, je suis passée de nombreuses fois devant cette statue et je me suis toujours demandé pourquoi elle était là. Créée par Paul Landowski, elle fut inaugurée en 1933 à l'occasion du 4e centenaire de la naissance de Montaigne, qui fut célébrée à la Sorbonne. Et pour la petite anecdote, elle était au départ en marbre, mais à la suite de nombreuses dégradations commises par les étudiants du quartier latin, elle a été changée en bronze en 1989. Aujourd'hui, cette statue fait partie des emblèmes de la Sorbonne, installée en face du bâtiment principal. Montaigne est assis, jambes et mains croisées, le regard tourné vers la Sorbonne, et semble veiller sur elle, comme le gardien éternel de notre université. Mais plus encore qu'un gardien, c'est son pied droit qui porte bonheur aux étudiants du quartier latin depuis des décennies. En effet, il se murmure que caresser le pied du philosophe en lui adressant « Bonjour Montaigne » porte chance pour réussir ses partiels. Alors c'est parti pour un petit rappel sur Montaigne, au cas où vous n'auriez pas les bases. Michel de Montaigne, figure humaniste du XVIe siècle, est né en 1533 en Dordogne. Ayant développé depuis son plus jeune âge une appétence farouche pour les lettres et le latin, il se tourne vers la carrière de magistrat à 22 ans. Il siège alors au Parlement de Bordeaux et c'est à cette période qu'il fait une rencontre qui va bouleverser son existence. La Boétie, un juriste érudit, auteur de poésie latine, avec lequel Montaigne entretiendra une amitié qui deviendra légendaire. Parce que c'était moi, parce que c'était lui.
écrit-il dans l'édition posthume des Essais de 1595. Et quand la Boétie mourra, en 1563, Montaigne en bonne amie s'attachera à perpétuer son souvenir. D'abord en publiant ses œuvres, puis en continuant un dialogue spirituel avec lui qui débordera pour devenir le dialogue intérieur des Essais. Après la mort de son ami, Montaigne vit une courte période de débauche et de passion pour les femmes, mais en 1565, il se marie, finit la débauche, et il devient alors un lecteur plus assidu que jamais. C'est à cette période qu'il s'isole dans son château familial en Dordogne et se consacre à l'étude. Il entame la rédaction des Essais à 39 ans et il la poursuivra jusqu'à sa mort en 1592 à 59 ans. Les Essais sont ainsi le résultat de 20 ans d'écrit. Et si les premiers s'apparentent à des petits traités philosophiques sur le modèle des antiques, c'est à 47 ans que Montaigne comprend enfin le vrai sens de son projet. Il veut se peindre lui-même. Les Essais deviennent alors un lieu d'introspection et d'exploration de l'intime. C'est la naissance d'un nouveau genre. Les deux premiers tomes sont publiés en 1580 de son vivant et suscitent un engouement certain du public. Ils seront pourtant mis à l'index en 1676 à la demande de Bossuet. Malgré la censure, l'œuvre de Montaigne dénote par l'expression franche et libre d'une pensée personnelle qui influencera celle de nombreux intellectuels français au cours des siècles suivants. Pascal, Rousseau, Nietzsche et même Proust, tous admirent l'œuvre du philosophe. Alors si Montaigne est aujourd'hui installé en face de la Sorbonne, c'est peut-être parce que les valeurs qu'il représente, la liberté d'expression, l'épanouissement intellectuel et la création, sont également celles revendiquées par notre institution. Car Montaigne, reconnu pour sa mesure et sa sagesse, nous invite à rester libres, à se méfier de tous les extrémismes, à être tolérants et surtout à aimer la vie telle qu'elle est et à la goûter pleinement. Alors n'oubliez pas de le saluer la prochaine fois que vous le rencontrerez.
Bon, Maëlys, on est d'accord, maintenant tous les soirs tu vas aller caresser les pieds de Montaigne?
Je pense que je vais même vous quitter maintenant et courir, si c'est pour avoir les partiels gratuitement, moi je dis pas non. Hein.
Les autres, non, vous avez... il n'y a que Maëlys qui va aller frotter les pieds de Montaigne.
Moi je serai que derrière elle.
Et Monsieur Fourcade va aller frotter les pieds de Montaigne peut-être.
Je voudrais confirmer qu'il faut caresser le pied de Montaigne et puis surtout le lire pour réussir ses partiels.
Oui, aussi, s'il vous plaît.
Ah, c'est
oui,
ça que j'ai raté, je me disais bien.
C'est ça qu'il a fini à la régie, Thomas, voilà, il fallait qu'il lise Montaigne.
C'est déjà la fin de cet épisode de Cours d'honneur.
On le sait, on va beaucoup vous manquer.
Mais en attendant, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur nos plateformes et nous suivre sur les réseaux.
Merci à toute l'équipe.
Victoire.
Marine.
Merci beaucoup.
Louane.
Merci, à bientôt.
Maëlys.
Merci, c'était un plaisir.
Malo qui n'est pas là.
Merci.
Ouais, merci.
Waouh, une interprétation au sein de moi.
Oui, Mélie, merci Mélie.
Merci à vous.
Merci Lilou.
Merci.
Juliette aussi, merci, qui n'est pas là non plus.
Oui,
mais
on
pense beaucoup à elle
fois.
Et elle était censée être là, c'est pour ça qu'il y avait écrit Juliette. Vivement qu'on passe en hebdo parce qu'on est un peu beaucoup dans cette salle.
Ouais, on a pas penses. Trop assez de chroniques casque. Hein.
Bravo à notre recruteur en chef qui, on l'espère, nous a préparé des crêpes. Merci Thomas.
Ah non, c'est une semaine sur deux les crêpes. Hein.
Oui,
ah
bon,
non,
voilà.
Là c'est juste du panettone.
Mais là aussi, faut passer en hebdo. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est toutes les semaines. Merci monsieur Fourcade d'avoir été là,
de
nous avoir accompagnés. Revenez quand vous voulez, c'était un plaisir.
Merci beaucoup.
Plaisir. Et on remercie aussi Radio Campus et le service culturel pour leur soutien.
Au fait, on fait un Secret Santa, peut-être qu'il y en a ici qui ne savaient pas. Donc, si vous voulez connaître les cadeaux, rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine émission.
Moi, je veux savoir maintenant.
Tu veux savoir maintenant le cadeau?
Mais le Secret non, Santa, c'est la magie de Noël.
Mais oui. Et d'ailleurs, tu n'as pas encore ton prénom pour le Secret Santa.
Je le donne maintenant.
Je pense qu'on passe tous des cadeaux à Maëlys.
C'est génial parce qu'elle a été étudiante.
Ça fait un anniversaire.
Oui, c'est ça.
Ok, le 7 février alors.
7 février, on sera là.
On tourne, c'est un mercredi en plus.
D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends. Est-ce qu'il y aura un autre confinement? Est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.